Bonjour Arturo Pérez-Reverté.
Bonjour.
Alors on a le plaisir de vous retrouver pour votre nouveau roman « Deux hommes de bien » qui va intéresser encore plus les lecteurs français puisqu'il y est question de l'encyclopédie et du Paris pré-révolutionnaire. Cette histoire, donc c'est une histoire vraie, ces deux membres de l'Académie espagnole qui vont à Paris pour tenter de ramener un exemplaire de l'encyclopédie.
Oui, c'est presque vrai. Ouais, je suis membre de l'Académie espagnole. Un jour, j'étais en train de fouiller dans la bibliothèque et j'ai trouvé qu'était. J'ai dit, oh, c'est l'encyclopédie. Alors j'ai remarqué que c'était la première édition. Et j'ai fait une petite enquête personnelle pour savoir comment ça arrivait là.
Oui. D'ailleurs, on vous voit, il y a une photo sur la jaquette du livre à l'Académie où vous êtes plongée dans ces exemplaires de l'encyclopédie.
C'est notre encyclopédie, elle est là. Nous sommes très fiers de l'avoir là. Et j'ai appris que ça arrivait quand était interdit en Espagne. Bon, comment est-ce qu'un livre qui était interdit par l'Église catholique est arrivé et il est à l'Académie? Alors j'ai commencé à faire une enquête personnelle pour mon plaisir et j'ai fini pour voir qu'il avait un roman là. Alors j'ai décidé d'écrire l'histoire de comment l'encyclopédie est arrivée, l'histoire aventurière pleine de situations novelesques, romanesques. Comment elle est arrivée là?
Alors l'encyclopédie, il faut le dire, à l'époque, cette œuvre fascine toute l'Europe intellectuelle.
Encore aujourd'hui,
bien sûr, mais en particulier à ce moment-là.
Si vous lisez aujourd'hui les chapitres démocratie ou l'introduction, c'est d'une modernité incroyable. Et surtout parce que l'encyclopédie a été, et pour moi, et toujours symbolise les moments dans lesquels l'homme découvre que c'est la raison qui doit être plus fort en face des fanatismes, les idées religieuses, tout ça. Non, alors ça a changé le monde, ça a converti l'Europe et aussi la France, surtout, dans la référence morale avec des livres.
Alors évidemment, il y a un débat, y compris au sein de l'Académie espagnole. À l'époque, on se demande, mais faut-il vraiment aller chercher un exemplaire de ce livre sulfureux, condamné par l'Église? Et puis finalement, oui, la décision est prise et il faut trouver deux hommes capables de se lancer dans cette aventure, d'aller chercher cette encyclopédie à Paris. Les deux hommes de bien qui donnent le titre de votre roman. Qui sont-ils ces deux hommes? En quelques mots.
Ouais, maintenant, nous serons déjà dans le terrain de la fiction. Alors, parce que moi, je n'avais pas d'informations très précises sur le personnage, alors j'ai développé des personnages romanesques. L'un, c'est le bibliothécaire, c'est un homme paisible, érudit, et religieux, religieux, mais illustré, éclairé, mais religieux, avec une conception religieuse, théologique du monde. Et l'autre, c'est l'admiral, c'est un marin, un scientifique sans foi, athée, et qui a la raison par-dessus les sentiments religieux. Alors, les deux personnages si différents dans l'aventure, parce qu'il y a une aventure parce qu'il y a des gens qui vont empêcher.
On va y revenir.
Ouais. Et alors, pendant les discussions, pendant les semaines, ils font une amitié et on montre que des gens de bien, même s'ils sont de différentes positions idéologiques, peuvent toujours se rejoindre dans des livres comme l'encyclopédie. Ouais.
Mais dans la réalité, il y a bien. Est-ce que l'on sait s'il y a eu deux représentants de l'Académie qui ont fait le voyage à Paris?
Ils sont venus ici pour acheter. Parce que l'Académie était en train de faire son dictionnaire. Et même les gens plus à droite, on peut dire, plus religieux, plus conservateurs de l'Académie, ils savaient que. Pour un dictionnaire, était fondamental en ce moment et avoir la plus haute manifestation de l'intellect et mondial, et c'était l'encyclopédie. Alors, même les religieux, ils ont compris qu'ils avaient besoin d'avoir ça pour ses travaux professionnels.
Alors, ce duo d'hommes de bien lancés dans cette aventure, vous venez de nous les présenter. On ne peut pas s'empêcher de penser à un autre duo célèbre de la littérature, en particulier espagnole, Don Quichotte et Sancho Panza, non?
Ouais.
Il y a un peu de ça dans ces deux-là.
C'est délibéré. J'ai voulu avoir les parallélismes entre les maigres, l'hidalgue, maigre, sérieux, et l'autre petit, gros, tout ça. Et même les chemins comme aventure et comme dialogue. Et ça c'est Cervantesque absolument, ouais.
Alors, ils arrivent à Paris, et là, je veux dire, vous faites une description absolument ahurissante et à la fois très précise, très étonnante du Paris d'avant la Révolution. Paris.
Mais c'est pas mon mérite, parce que moi, j'ai cherché tous les livres de l'époque, voilà. Les livres de Mercier, les livres de Restif de la Bretonne, tous les écrivains qui ont raconté les Paris du XVIIIe siècle, et je les ai pillés avec sans complexe, et j'ai utilisé tout ce matériel que j'ai pu pour les romans. Ouais.
Et d'ailleurs, je voulais y venir plus tard, mais on va le faire tout de suite, vous vous mettez vous-même en scène dans votre roman, vous racontez tout ce travail de documentation, toutes vos recherches, vos lectures, et ça aussi, c'est une aventure, c'est palpitant.
Oui, mais il y a des fictions là aussi. Hein. J'utilise des noms de amis réels pour les faire avoir avec moi des dialogues que jamais ils sont eux. Et alors, il est dans la partie où l'écrivain raconte comme qu'il fait le roman, il y a 70% de fiction et 25% de réalité.
Ah oui, là aussi, vous jouez toujours avec les ouais, lignes.
Parce que la littérature, c'est toujours un jeu. Pour moi, je crois que j'écris pour m'amuser. Et aussi, à part qu'il y a pas mal d'idées, des choses qu'on met dans les romans, évidemment, les regards sur le monde. Mais les sentiments de s'amuser, pour moi, est très important. J'ai besoin de m'amuser pendant que j'écris un roman. Alors, je veux que le lecteur s'amuse avec moi.
Alors, l'auteur dans le roman, qui, si j'ai bien compris, est en partie aussi un personnage de fiction, ouais. Et pas totalement vous, fait mention d'un compte-rendu du voyage qui a été laissé par ces deux hommes de bien à l'Académie. Ça, ce document existe ou c'est une ouais. création du romancier ?
Non, le document existe, mais a été manipulé par les romanciers.
D'accord.
J'ai appris ça à Dumas, Alexandre Dumas, quand j'étais jeune. C'était le premier livre que je lis avec plaisir des lecteurs. Ça a marqué ma vie après. Dumas m'a laissé une certaine façon d'entendre la littérature, les romans, et surtout la manipulation de l'histoire, et l'introduction des éléments faux dans les carré général et réel, ça m'amuse beaucoup et je le fais toujours dans mes romans.
Alors Paris,
excusez-moi, justement, la force de ça, c'est qu'aujourd'hui, on pense à Richelieu, pas comme l'histoire elle dit, mais comme Dumas l'a raconté. Ça, c'est la force de la fiction quand elle est bien faite, évidemment.
Alors Paris, vous le rappelez, à l'époque, c'est la Babylone du monde, capitale intellectuelle.
Oui, et ça, moi, je dois dire que j'étais attendri parce que moi, j'imaginais mes deux bons espagnols qui vont bien ici à Paris, qui pour eux, c'est le Hollywood de l'époque, non? Avec les respects, avec l'admiration pour la ville formidable, pour les gens, les cafés. Alors, je les ai fait promener par tout ce monde fascinant, qui est fascinant pour moi. Et alors, sa reconstruction, je l'ai fait avec le livre de l'époque, je dis. Mercier, avec Restif de la Bretonne.
Alors, il y a des moments, des scènes très, très fortes, plus fortes que d'autres. En particulier, leur passage au café Le Procope, qu'on ouais. présente toujours comme peut-être le plus vieux café, ouais. en tout cas de France, voire d'Europe. Et là, c'est un moment formidable parce qu'ils y rencontrent, et ça, c'est aussi la réalité. Ils y croisent quasiment tous les auteurs de l'encyclopédie, ouais. Diderot, d'Alembert. Ils sont tous là. J'imagine que pour l'auteur que vous êtes, il y a une forme de jubilation, de plaisir à écrire des scènes comme celle-là.
Imaginez avoir lu tout ça, relire tout ça, lire des choses nouvelles, avoir les cartes du vieux Paris avec moi. Et c'est une sorte une espèce de Photoshop. Moi, en effaçant l'automobile, les touristes, et en regardant seulement ce que je voulais voir, ce que mes lectures me permettaient de voir. C'est le privilège des lecteurs qu'il peut faire ça. Il peut projeter sur la réalité l'autre réalité émerveillée qu'il a à la tête les romans. Alors, j'ai fait ça à Paris pendant des mois. C'est un plaisir incroyable. J'espère que le plaisir, ça se reflète dans les résultats des romans. Tous les livres que j'ai lus sur ce Paris, je peux faire la reconstruction et ça, c'est un privilège.
Alors, il y a un personnage, Margarita Danceny.
Ouais.
Est-ce que la personnage historique ou
non,
création?
Non, c'est pas historique.
Mais voilà, vous jouez vraiment avec nous. Hein.
Non, mais comme vous savez, il y avait beaucoup de dames qui avaient des salons qui ont été fondamentales dans la vie intellectuelle du Paris des Lumières et qui ont préparé les grandes éclosions des lettres et des cultures et de tout. Et Et je fais une sorte de portrait commun. Il y avait une qui s'appelait Teresa Cabarrús, qui était espagnole. Elle était un peu plus tard, ça ne me servait pas. Alors, je construis mon personnage pour résumer en elle toutes les qualités, tous les détails historiques des salons de l'époque.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tous les aspects du Paris de cette époque-là. Il y a bien sûr...
Paris, c'est les trois siècles protagonistes du roman,
oui,
sans doute.
Exactement. Donc, il y a le Paris intellectuel, des Lumières, de l'Encyclopédie... C'est aussi un Paris en situation pré-révolutionnaire, avec beaucoup de tensions. Il y a déjà les prémices de la Révolution, vous décrivez, ouais. Même des nobles qui sont sifflés ou attaqués dans la rue. Enfin voilà, tous les germes sont là déjà. C'est une ville où il y a une violence permanente et sourde.
Oui, est-ce que moi j'avais une dette. Moi j'ai une dette parce que moi j'ai lu, quand je lis avec très jeune, j'ai lu l'histoire de la Révolution française de Michelet. Pour moi, c'est de plus grand des chefs d'œuvre de la littérature, pas française, mais universelle. Et j'avais toujours à la tête ces mondes, les mondes révolutionnaires et comment on arrivait à ça. Alors, ces romans me permettaient de montrer les premiers signes de ces troublements qu'allait changer l'image de la France et du monde. Ouais. Et pour des personnages, ils sont bien d'une Espagne qui est tranquille, une Espagne du pouvoir réel, de religion possible. Voir les émeutes dans les rues, les gens qui crient liberté, tout ça, pour eux, c'est un choc culturel, social et politique. Très intéressant.
C'est aussi Paris, ce sera d'ailleurs l'un des ferments de la Révolution. C'est une ville où il y a une grande misère, c'est une ville coupe-gorge avec beaucoup de délinquance. Et en particulier, vous décrivez un lieu qui aujourd'hui a une autre connotation pour les Français, qui est la Salpêtrière, qui est l'un des grands hôpitaux parisiens. Mais alors à l'époque, vous nous rappelez que quel endroit sordide, un enfer.
Absolument. Et même et les centres de la ville, ce qui est maintenant le 6e, la rue Saint-Michel, était une très mauvaise place, était un endroit misérable où il n'y avait pas d'hygiène, pas de santé, les enfants mouraient de maladies. Alors, pouvoir récupérer tout ça et l'introduire dans le roman était un exercice, à part littéraire, romanesque, personnel, pour moi, très amusant, très intéressant.
Et alors la Salpêtrière, si en quelques mots il fallait expliquer ça à nos auditeurs.
Oui, la Salpêtrière était la prison, on amenait le fil de la rue.
Prison des prostituées.
La prison des prostituées, oui. Il avait, et on montait, on faisait des je ne sais pas comment dire en français, on les emprisonnait dans le rue, on les montait dans charrette pour amener à la Salpêtrière. Et les gens dans le rue, ils venaient passer, les filles qui étaient là. Alors c'était un monde absolument pittoresque et incroyablement cruel aussi.
Alors il y a autre chose qui va étonner nos deux visiteurs espagnols, parce que ça ne se pratique pas du tout là-bas, ça, c'est vraiment dans la culture française, c'est le duel.
Ah ouais. Oui, parce qu'en Espagne, les duels étaient interdits, étaient vraiment interdits, et il y avait des très dures peines de prison pour ceux qui se battaient en duel au XVIIIe siècle. Mais en France, c'était à la mode sociale, non? Et alors, le personnage, un de mes personnages, l'amiral, il se voit inclus dans un duel avec une libertine parisienne, et le parrain du duel est Claude Erlos de Laclos.
Cette mission, ça n'est pas trahir un secret que de dire qu'évidemment elle sera réussie malgré toutes les embûches auxquelles ils doivent faire face, ces deux hommes de bien. Est-ce que dans la réalité, ça a été aussi difficile, ce voyage de l'époque?
J'exagère un peu. J'ai introduit dans les romans la
figure. Est-ce qu'il y a eu des ennemis? Est-ce qu'il y a eu des tentatives pour les empêcher de ramener l'encyclopédie? S'est avéré?
Il y a eu des tentatives politiques. On a empêché les rois et les majestés, il faut empêcher ça. Ouais. Les religieux qui ont essayé de mettre des bâtons dans la rue. Mais la réalité, le voyage a été un voyage pas spécialement dangereux. Seulement que moi, j'ai introduit un type sinistre qu'on envoie sur les traces des deux académiciens pour empêcher qu'ils réussissent à mener l'encyclopédie. Alors ça donne lieu à des situations plus aventureuses, plus rocambolesques.
Le Raposo,
c'est un vrai méchant. Un ancien soldat.
Mais qui sait, qui sera peut-être touché par l'esprit des Lumières.
Pour ça, il faut lire les romans.
Exactement.
Tout ça, ça.
Quel a été alors l'apport de l'encyclopédie, de l'esprit des Lumières dans l'Espagne de cette époque?
Très, très important, parce qu'il avait, à l'Espagne, il avait des gens éclairés qui voulaient réellement changer la réalité espagnole. C'est vrai que, à différence de la France, en Espagne, l'Église catholique était introduite dans les mécanismes de pouvoir plus puissants. Alors, ils ont empêché, ils ont étouffé les lumières avant que ça peut brûler hein, en Espagne. Malheureusement, l'Espagne a perdu l'opportunité de changer dans le XVIIIe siècle. Et les gens qui ont essayé, qui ont été près de réussir l'invasion napoléonienne, la guerre contre la France, d'abord la France révolutionnaire et après la France napoléonienne, a fait que les Espagnols prennent position contre la France, qui était notre sauvetage de l'autre côté. Alors, on a pris position contre l'ami que nous aurions dû avoir et on a défendu l'ennemi que nous avons dedans. Et ça a fait que l'Espagne reste hors les progrès et hors les lumières pendant deux siècles encore.
Alors, je me disais aussi qu'une fois de plus, ce livre, ce n'est pas la première fois que l'histoire de France vous inspire, qu'il illustre l'amour, la passion que vous avez de la France, de notre culture, de notre histoire. D'où ça vient?
Quand j'étais petit, mon grand-père me disait « Arturo, tu dois apprendre le français ». Il disait « Pourquoi ?» Il disait « Parce que chaque deux, trois générations d'Espagnols, il y a une génération qui doit s'exiler. Et pour nous, l'exil naturel, c'est la France. Alors, c'est très triste d'aller à l'exil sans parler la langue. » Et il avait raison. Et parce que pour nous, pour ma génération, pour ma famille, pour ma bibliothèque, pour mes grands-pères, pour mon père, la France est toujours la référence culturelle, l'endroit où on regardait toujours. Et moi, quand j'ai commencé à voyager, à lire, je suis venu à Paris, j'ai marché la ville, les bibliothèques. Même quand j'étais reporter et j'étais dans des pays en guerre, j'étais toujours avec des journalistes français. Mais les jours que j'ai connu Jean Lartegui, aujourd'hui, on a oublié Lartegui. Mais à l'époque, c'était un journaliste romancier qui était très, très, très connu.
À Match.
Oui, je l'ai trouvé à Beyrouth. Je suis allé dire, monsieur Lartegui, je ne vais pas vous emmerder. Je vais vous donner la main seulement parce que je suis ici à cause de vous. Il était très content. Alors, j'ai une très vieux et très chéri rapport avec la France. Et bon, ces livres de Son Devient, c'est une façon de rendre un peu à la France de ce que je dois, une petite partie de ma dette.
Mais alors, est-ce que la France aujourd'hui est toujours fidèle à elle-même?
Non, je crois que la France est en train de se trahir, malheureusement. Et moi, les gens qui nous aimons la France, nous souffrons beaucoup, moi je souffre beaucoup, parce que ma France, elle est en train de démolition et ça me fait beaucoup de tristesse.
Merci infiniment, Arturo Pérez-Reverté.
Merci à vous.